VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 9 avril 2019. En direct de Washington, Eric Manilakiza et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, les pro-Kabila qualifient d'attaque gratuite des déclarations du président Félix Tshisekedi à Washington.
Au Mali, 15 djihadistes présumés neutralisés près de la frontière burkinabé.
En Algérie, incertitude sur l'intérim après Bouteflika.
Le chef de l'ONU appelle à l'arrêt immédiat des combats en Libye.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, depuis l'attaque d'Ogossagou et les récentes représailles dans les plateaux d'Ogon, les Fama et Barkhane ont initié des patrouilles communes tout le long des frontières Mali-Burkina Faso. Les deux forces ont neutralisé 15 terroristes à la frontière Mali-Burkina Faso. Au même moment, dans la région de Ségou, un naufrage de chaland fait 9 victimes, dont 3 enfants. Le point avec Kassim Traoré.
C'est le dimanche dernier que les forces Barkhane et les Fama ont planifié une patrouille tout le long de la frontière Mali-Burkina. C'est ainsi que dans l'opération baptisée Tchessaba Bourgou 1, les Fama et Barkhane ont pu neutraliser 15 terroristes et récupérer 14 motos, de l'armement, du matériel explosif, des munitions et faire des prisonniers. L'opération en question a eu lieu dans le village frontalier de Pétédougou, vers le Burkina Faso. Tchessaba Bourgou 1, comme son nom l'indique, va s'étendre à toute la région de Mopti afin de traquer des terroristes. Quant au naufrage d'un chaland à Markala, qui a fait 9 victimes, dont 3 enfants, cet incident s'est déroulé le dimanche dernier lors de la foire hebdomadaire de Markala, une localité située à 37 km de la ville de Ségou. C'est tôt le matin que le chaland s'est renversé au niveau de Pointa, sur la rive gauche du fleuve Niger à Markala. Le chaland en question transportait des forains en route pour la foire hebdomadaire de la commune de Markala. Leur engin fluvial était trop chargé. C'est l'affolement des passagers qui a forcé l'écoulement. Il y avait aussi trop de marchandises dans la petite embarcation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
3 militaires camerounais ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque dans la région de l'extrême nord du Cameroun, revendiquée par la faction de Boko Haram, affiliée à l'État islamique. Cette faction affirme, elle, avoir tué et blessé au moins 20 militaires.
Le seul aéroport fonctionnel de Tripoli a été touché hier par une frappe aérienne des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, qui mène une offensive contre la capitale libyenne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'escalade de la violence autour de la capitale libyenne Tripoli et appelé à un arrêt immédiat des combats. Le président français, de son côté, a téléphoné ce lundi au chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Jena, pour lui affirmer son refus total de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne.
Qui assurera l'intérim du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika en Algérie? Le Parlement doit entériner le processus aujourd'hui, mais le remplaçant désigné par la Constitution, Abdelkader Ben Salah, incarnation d'un système dont les Algériens veulent se débarrasser, devrait passer la main. Le point avec Morgane Guiriec.
Une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les parlementaires de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation sont convoqués mardi matin pour acter la vacance à la tête de l'État. Ils doivent ensuite charger, conformément à la Constitution, le président de la Chambre haute, poste occupé actuellement par M. Ben Salah, d'assurer l'intérim à la tête de l'État pendant 90 jours. Mais vendredi, premier jour de manifestation hebdomadaire depuis l'annonce du départ de M. Bouteflika, les Algériens ont à nouveau défilé en masse pour exiger que soient exclus du processus de transition les hommes clés de l'appareil mis en place par ce dernier. Un trio a été particulièrement visé, M. Ben Salah, le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, et le premier ministre Noureddine Bédoui. Le mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste et longtemps soutien du camp Bouteflika avant de rompre en 2012, a indiqué qu'il boycotterait mardi la session parlementaire, refusant de valider la désignation d'Abdelkader Ben Salah comme chef de l'État par intérim, car contraire aux revendications du peuple.
Les milliers de Soudanais réunis pour la troisième journée consécutive devant le quartier général de l'armée à Khartoum ont appelé hier à l'ouverture de négociations avec les militaires en vue de la formation d'un gouvernement de transition devant remplacer le président Omar El-Béchir. Les précisions de Irénée Herman Ungbo.
Rassemblés lundi devant le complexe habitant le siège de l'armée et le ministère de la Défense, non loin de la résidence du président, des milliers de manifestants veulent convaincre les soldats de soutenir leur mouvement contre le gouvernement et le président Omar El-Béchir. Nous appelons les forces armées soudanaises à engager un dialogue direct avec l'Alliance pour le changement et la liberté afin de faciliter un processus pacifique débouchant sur la formation d'un gouvernement de transition, a déclaré un dirigeant du groupe à la tête de la contestation Omar El-Digue. Les forces armées soudanaises comprennent les motifs des manifestations et ne sont pas contre les demandes et les aspirations des citoyens, mais elles ne laisseront pas le pays sombrer dans le chaos, a réagi le ministre de la Défense, le général Awad Ahmed Binaf. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part exhorté lundi le gouvernement du président Béchir à créer un environnement propice à une solution à la situation actuelle et à la promotion d'un dialogue inclusif. Samedi, lors d'une journée de manifestations à travers le pays, 7 personnes ont été tuées et près de 2500 arrêtées selon le ministre de l'Intérieur, Bouchara Djouma.
En RDC, le Front commun pour le Congo, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, s'attaque aux propos du président Félix Tshisekedi au cours de sa visite aux États-Unis et critique sa gestion des finances du pays. Un nouveau point de désaccord dans les relations déjà difficiles entre les deux camps, alors que les discussions pour la désignation d'un premier ministre n'ont toujours pas abouti. Les détails de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous regrettons la teneur de certains propos militants tenus par le chef de l'État qui, à l'occasion de sa visite aux États-Unis d'Amérique, a sollicité l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner le système dictatorial en RDC, indique le Front commun pour le Congo dans son communiqué. Le regroupement politique de Joseph Kabila regrette aussi le fait pour Félix Tshisekedi de vouloir instrumentaliser les valeurs républicaines telles que la lutte contre la corruption, alors qu'elles sont partagées par le FCC depuis la révolution du 17 mai 1997, date de la chute du régime Mobutu. Concernant la gestion des finances de l'État, le Front commun pour le Congo reproche à l'actuel président de la République sa gabegie financière sans aucun soubassement probant et sa gestion économico-financière depuis 2 mois en violation de la Constitution et des lois de la RDC. Il appelle le nouveau président de la République à une attitude constructive et non conflictogène. 2 mois et demi après son investiture, Félix Tshisekedi n'a toujours pas nommé un premier ministre qui doit sortir de la majorité parlementaire tenue par le camp de Joseph Kabila. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le patron du Secret Service, la prestigieuse police d'élite chargée de la protection du président des États-Unis, va quitter prochainement son poste, a annoncé ce lundi la Maison-Blanche, sans toutefois donner les raisons de ce départ inattendu.
Deux élus du Congrès américain, un républicain et un démocrate, ont fait part ce lundi de leur volonté de voir Robert Mueller, procureur spécial en charge pendant 22 mois de l'enquête russe, venir témoigner sur la colline du Capitole. Si vous cherchez à la fois la transparence et la possibilité pour le public américain de connaître les contours complets de l'enquête du procureur spécial, le témoignage public du procureur spécial Mueller lui-même est le meilleur moyen de remplir cet objectif, a écrit Doug Collins, membre républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants.
Les États-Unis ont placé ce lundi les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien, sur leur liste noire des organisations terroristes étrangères. Un geste sans précédent pour renforcer leur pression économique qui n'a pas réussi pour l'instant à faire fléchir Téhéran.
Les États-Unis ont interdit d'entrer sur leur territoire 16 ressortissants saoudiens en raison de leur rôle dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, a annoncé lundi le Département d'État américain. En novembre dernier, Washington avait déjà annoncé des sanctions financières ciblées contre 17 responsables saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre. Jamal Khashoggi était un journaliste saoudien critique du régime. Il a été tué le 2 octobre dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul par un commando d'agents venus de Riyad.
La première ministre britannique Theresa May s'est engagée ce lundi dans une intense activité diplomatique qui la menera à Berlin puis à Paris mardi à la veille d'un sommet européen où elle plaidera pour un nouveau report de la date de sortie de l'Union européenne.
Les deux principaux candidats aux législatives d'aujourd'hui en Israël ont jeté ce lundi leur dernière force dans cette bataille incertaine. Benjamin Netanyahou agitant le spectre d'une défaite de la droite, le général Benny Gantz promettant de mettre fin au règne du Premier ministre sortant. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco de Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire réduit la taxe sur les exportations de la noix de cajou, la faisant passer de 10% à 7%. La Tribune Afrique écrit que ce changement, qui se justifie par la baisse des cours internationaux, vise à éviter de pénaliser les exportateurs et faire en sorte que les producteurs aient droit à un meilleur prix au kilogramme. Celui-ci est fixé à 1 dollar sur le marché international. Le Cameroun s'apprête à émettre mercredi des bons de trésor assimilables à 26 semaines d'une valeur de 10 milliards de francs CFA sur le marché de la CEMAC. La Tribune Afrique révèle que la souscription à ces titres se fera auprès de 17 spécialistes en valeur du trésor du pays émetteur, mais aussi auprès du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique et du Tchad. Ces finances seront destinées aux projets de développement et permettront au Cameroun d'affronter la chute des cours du pétrole qui affecte son économie, la crise anglophone et les menaces terroristes qui s'y ajoutent. Pour terminer cette minute éco, les sommes transférées par des habitants d'un pays riche vers leur pays d'origine devraient atteindre 550 milliards de dollars cette année et devenir la principale source de financement extérieur des pays en développement, a indiqué la Banque mondiale hier. L'an dernier, ces versements avaient atteint 529 milliards de dollars, soit une hausse de 9,6% sur un an. L'Inde a été la principale destinatrice de ces fonds, suivie par la Chine, le Mexique, les Philippines et l'Égypte. Les transferts vers l'Afrique et vers les îles du Pacifique restent particulièrement coûteux avec des frais de plus de 10%.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour. En football, quart de finale aller en Ligue des Champions ce soir.
Oui, on aura un choc inédit entre Tottenham de l'Ivoirien Serge Aurier et Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. Ce duel 100% anglais entre les Spurs et les Citizens devrait faire des étincelles dans le Tottenham Hotspur Stadium, nouvel écrin de 62 000 places dans lequel les Londoniens viennent d'aménager. Favori sur le papier, Man City surfe sur une série de 22 victoires en 23 matchs consécutifs. Depuis le 30 décembre, toutes compétitions confondues. Dans le camp d'en face, le bilan est beaucoup moins reluisant. Tottenham a enchaîné 4 revers et un match nul en championnat avant de relever la tête la semaine dernière contre Crystal Palace.
Et dans l'autre quart de finale, Liverpool affronte le FC Porto.
Oui, cette rencontre apparaît plus déséquilibrée entre Liverpool, le finaliste de la précédente Ligue des Champions, et les Portugais. La saison dernière, les Reds avaient balayé le FC Porto 5-0 en huitième de finale aller grâce à leur triplette de buteurs, l'international sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah et le Brésilien Roberto Firmino. Muet pendant 8 matchs, l'attaquant égyptien a débloqué son compteur but vendredi dernier contre Southampton.
Changeons de registre pour parler du Tour cycliste du Togo, 7 pays attendus sur les routes, Yacouba.
Oui, en plus du pays hôte qui alignera 2 équipes de 6 coureurs chacune, 7 autres pays seront de la partie, 4 Africains, le Bénin, le Ghana, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso, et 3 Européens, l'Allemagne, la Belgique et la France. Le Tour international cycliste du Togo commence demain avec la première étape Lomé à Takwame, 158 km, soit la plus longue distance. L'arrivée finale est attendue le 14 avril avec un circuit de 92 km à Lomé.
Enfin, nous avons du premier qualifié pour le Final Four de la FIBA Africa League.
Oui, il s'agit du Primeiro Agosto d'Angola et de Soumois d'Égypte. Après avoir pris le dessus au match aller, Soumois s'est de nouveau imposé 88-81 devant Al Ahly pour se frayer un passage dans le Final Four. De son côté, le Primeiro Agosto a arraché son ticket après avoir dominé son rival Petro Luanda, 74-57. Les deux derniers qualifiés seront connus le week-end prochain. Tout reste à jouer entre Defenders du Nigeria et l'AS Salé du Maroc le 12 avril après le match nul 69-69 à l'aller. Enfin, court succès 68-67 de Kairouan devant l'étoile de Rades dans le duel tunisien. Le match retour aura lieu le 13 avril. Le Final Four du FIBA Africa Basketball League est prévu au mois de mai.
C'était l'espoir de Yacouba Ouédraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda a été perpétré sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Environ 1 million de personnes ont été décimées en moins de 100 jours. Mais 25 ans après cette tragédie du 21e siècle, le monde a-t-il tiré les leçons qui s'imposent pour éviter la répétition de ce qui s'est passé au Rwanda? Idriss Fall, notre envoyé spécial à Kigali, s'est entretenu avec Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la prévention du génocide.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. 25 ans après, nous aurions dû faire beaucoup plus. En 1945, le monde avait dit plus jamais ça. 94, le génocide des Tutsis au Rwanda. 95, Srebrenica. Ainsi que les Nations Unies ont mis en place le bureau que j'occupe aujourd'hui. L'Union africaine a adopté un acte constitutif où il a été inclus le principe de non-indifférence, l'article 4H, qui prévoit que lorsque des populations font face à des circonstances graves, risque de génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre, l'Union africaine doit intervenir. Entre les mots et l'action, il y a un fossé énorme et c'est pourquoi nous devons aujourd'hui redoubler d'efforts pour faire en sorte que les gens ne soient plus ciblés en raison de la couleur de leur peau, de leur origine ethnique, leur religion ou de toute autre forme de discrimination.
Mais les semaines passées, des Peuls ont été massacrés massivement au Burkina Faso et la même chose s'est reproduite au Mali voisin.
J'ai récemment déployé une équipe au Mali qui a pu évaluer la situation au centre du Mali et dans le nord-est et compte tenu des informations inquiétantes qui m'ont été rapportées, j'ai engagé des consultations auprès des acteurs concernés. Je veux attirer tout simplement l'attention sur la gravité de la situation dans le centre du Mali. Une situation qui jusqu'ici n'a pas reçu l'attention nécessaire et faire en sorte que les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir une escalade de la situation dans cette région. Vous avez mentionné le Burkina Faso. Il faut faire en sorte qu'on n'aille pas beaucoup plus loin. D'abord, au Mali, il y a une présence militaire de la MINUSMA. Il y a l'opération Barkhane également. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA va être discuté au mois de juin prochain. Et j'espère que la communauté internationale renforcera les moyens de cette mission et que cette mission soit présente là où les populations sont en danger. Je n'ai rien contre la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'on focus sur le Nord. Mais le focus aujourd'hui, c'est là où il y a encore de grands risques. Ce qui s'est passé à Ouagadougou est tout simplement inacceptable et j'espère que les Maliens vont se retrouver, se réconcilier avec eux-mêmes et mon bureau va d'ailleurs apporter son appui pour développer un espace de dialogue intercommunautaire.
On compte toujours sur les Nations Unies, au Mali, la MINUSMA, en Centrafrique, la MINUSCA. Est-ce que les États africains n'ont pas une grande part de responsabilité dans ce qui se passe dans leur propre pays?
La question de la gouvernance est une question récurrente. Et il faut se réjouir et relever qu'il y a des États africains qui ont fait énormément d'efforts et où aujourd'hui le leadership est assumé. La gestion, elle est également presque parfaite, mais ce n'est pas l'unanimité. Il faudra aujourd'hui plus que jamais qu'en Afrique, nous arrivions à renforcer les institutions, à commencer par les institutions judiciaires, législatives, faire en sorte que la société civile, son espace ne soit pas rétréci, faire en sorte qu'on ait une gestion constructive de la diversité. Nous vivons tous dans un monde, c'est la pluralité. En Afrique, vous avez la pluralité des ethnies. On ne peut pas aujourd'hui se permettre que dans un gouvernement, qu'on ait pratiquement un gouvernement mono-ethnique, il faut faire en sorte que personne ne soit exclu. Parce que là où il y a exclusion, il y a frustration. Et là où il y a frustration, finalement, les gens prennent les arbres. Et il nous faut aujourd'hui détruire ces arbres, construire ce continent. Ce continent a un potentiel immense. Et ce n'est pas pour rien qu'on te parle de rencontres China-Africa, de rencontres India-Africa, de rencontres Turquie-Africa. L'Afrique est un vivier. L'Afrique a toutes les ressources, qu'elles soient humaines. Combien d'Africains conseillent aujourd'hui des gouvernements à l'étranger? Faisons en sorte tout simplement que l'Afrique soit unie. Ce rêve de Kwame Nkrumah, ce rêve de Cheikh Anta Diop, de Marcus Garvey, de Mwalim Munyerere, qui disait que les Africains doivent être les protecteurs de leurs frères et de leurs sœurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts.
Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la prévention du génocide.
VOA Afrique. à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a clôturé le week-end, un séjour de 4 jours dans la capitale américaine. Il était beaucoup question d'économie, d'investissement, mais aussi de relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington. Que retenir du premier voyage officiel du président Félix Tshisekedi aux États-Unis? Eddie Isango et quelques autres journalistes lui ont posé cette question lors d'une rencontre avec la presse. Voici son compte-rendu.
Parmi les promesses faites lors de son passage à Washington, M. Félix Tshisekedi affirme vouloir déboulonner les systèmes dictatoriaux qui étaient en place depuis 22 ans. Comment compte-t-il les faire dès lors que les FCC font commun pour le Congo la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila à la majorité parlementaire et est en passe de contrôler quasiment toutes les provinces? Réponse avec Félix Tshisekedi.
Je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'il faisait avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Ce n'est pas de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, OK, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère. Et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. C'est qu'ils ne voulaient pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'ils pensaient que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les mêmes méthodes du passé. Je dis non, je n'accepterai pas ça. Je ne vais plus retomber dans ces travers-là. Donc c'est ce que j'entendais par déboulonner le système. Et cela n'empêche pas du tout une coalition avec le FCC, parce que ce FCC sait, pour avoir échangé avec nous, quel est l'entendement que nous faisons de cette coalition. Ce sera une coalition au service de notre peuple et de notre pays.
Autre point abordé par M. Félix Tshisekedi, la protestation de M. Martin Fayulu, l'opposant qui s'est autoproclamé président élu.
M. Fayulu, qui demeure dans la contestation sans preuve, s'est dernièrement, baladé dans toute la République sans aucune entrave. Je ne vais pas contraindre M. Fayulu à s'asseoir autour d'une table avec moi. Mais si demain il manifeste l'intention de venir me parler, je lui parlerai.
Somme toute, M. Tshisekedi s'est déclaré satisfait de sa visite à Washington, surtout avec la perspective des reprises des discussions avec les FMI, les Fonds monétaires internationaux, mais plus encore avec les renforcements de la coopération avec Washington.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Gabon, des milliers d'élèves ont boudé à Libreville comme à l'intérieur du pays la réforme des bourses. Cette réforme décidée récemment en Conseil des ministres prévoit que seuls les élèves ayant 12 de moyenne annuelle et âgés de 19 ans pourront bénéficier de cette allocation d'études. De leur côté, les élèves dénoncent une décision discriminatoire. Les précisions de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Port-Gentil, capitale économique du Gabon, a connu une matinée mouvementée ce lundi. En cause, les élèves ont occupé les voies publiques pour protester contre la réforme des bourses. Dispersés à coups de gaz lacrymogène par l'unité de police de la ville, les manifestants crient leur indignation. À Libreville, même lundi, même colère d'élèves devant plusieurs lycées et collèges. Ils avaient par endroits essayé des rassemblements très vite empêchés par les forces de l'ordre. Néanmoins, la journée sans classe a tenu ses promesses.
C'est pas normal. Après, on va voir les garçons sont en train de braquer. La jeune de l'eau, c'est qui fait au Gabon. On n'est pas normal pour ça. On ne peut pas avoir 12. au baccalauréat et 19 ans.
Jusqu'à l'annonce de cette réforme querellée, la bourse scolaire dans les lycées et collèges gabonais était conditionnée à l'obtention par l'élève d'une moyenne supérieure ou égale à 10. Pour le gouvernement gabonais, ce temps est révolu, surtout pour ceux des classes de terminale. Julien Corbet-Calé, Premier ministre, chef du gouvernement gabonais.
Il ne s'agit pas de supprimer les bourses. D'autres pays l'ont fait depuis les États généraux de l'éducation nationale en 2010. Une loi a été prise en 2011. Et dans cette loi déjà, votée à l'Assemblée nationale, une voie préparée par la communauté éducative de l'enseignement supérieur, enseignement général, technique professionnel, la loi d'orientation sur l'éducation. C'est l'article 24 que nous mettons en application maintenant. Et dans cet article 24, il est dit clairement que le bac, on l'obtient à 17 ans. Mais le gouvernement a dit, tenant compte du contexte du pays, on va aller à 19 ans. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir le bac. Non, mais à 30 ans ou à 40 ans, on peut avoir le bac. Mais si vous avez le bac à 19 ans et que vous avez 12 de moyens, vous serez encouragé par l'État. Et vous aurez de la bourse pour suivre vos études. C'est ça l'esprit de la loi, du décret. C'est ça. Et ce sont les enseignants eux-mêmes, pendant un mois, à la Cité de la démocratie, en 2010, qui ont voté cela. Et c'est passé à l'Assemblée nationale. Donc ça ne peut pas être aujourd'hui un sujet de contestation.
Libreville, Ismaël Obionzé, VO Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Tchad, la pénurie du gaz butane dure déjà plus d'un mois alors que les autorités avaient annoncé la fin du calvaire au début de ce mois d'avril. Raison avancée pour justifier cette pénurie, les travaux de maintenance de la raffinerie de Djarmaya, située à la sortie nord de la capitale. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le Tchad, qui a commencé à exploiter son pétrole depuis 2003, n'a qu'une seule source d'approvisionnement en produits finis. C'est la seule raffinerie de Djarmaya qui alimente les ménages tchadiens en gaz butane. Le 23 février 2019, les machines sont arrêtées pour des raisons de maintenance et du coup, le gaz butane, qui se substitue au bois de chauffe et au charbon dont l'usage avait été interdit, devient une denrée rare. Le 8 mars 2019, le président Déby lui-même avait annoncé aux femmes que leur souffrance ne sera qu'un mauvais souvenir dans moins de 72 heures. Mais la situation va de mal en pis. Le 3 avril dernier, c'est le tour de son ministre en charge du pétrole de déclarer que les travaux de maintenance sont finis et que le feu doit s'allumer dans tous les ménages. Au micro de VOA Afrique, certains citoyens estiment que ce sont des déclarations politiques.
Aujourd'hui, tôt le matin, tout le monde est là. Est-ce que ça va arriver ou ça ne va pas arriver, on ne sait pas. Mais il faut le dire à votre président là. Nous, on est marre de lui.
C'est pas normal ça. Vous voyez des femmes avec des enfants, avec des bouteilles de gaz. Elles sont là, elles souffrent, elles n'ont même pas de bouteille.
On nous a promis que le cadre, le gaz va sortir. Et depuis 5 heures qu'on est là, on n'a rien vu. Moi, j'ai accouché même pas une semaine. Je n'ai même pas le gaz pour allumer l'eau chaude pour l'enfant. Il a promis, mais il n'a rien fait.
Pour le vice-président du syndicat national des distributeurs de gaz, Abdelbassit Baradine Amat, c'est la population de N'Djamena qui est beaucoup plus touchée par cette crise gazière.
Pour la ville de N'Djamena, autant rien, il faut au moins 6 citernes. Et maintenant, on n'arrive même pas à trouver 6 citernes par jour. On est toujours en difficulté. Aux provinces, les fagots et les charbons qui en abondance, comme là-bas, c'est les fonctionnaires qui utilisent beaucoup de gaz. Les paysans, là, ils ne sont pas encore entrés dans le gaz.
Selon certains observateurs, les vraies raisons de la pénurie de gaz butane au Tchad sont ailleurs. Les machines seront verrouillées par la société chinoise qui s'occupe de la raffinerie et l'État tchadien pour une question d'intérêt et un conflit de leadership au sein de la direction générale entre les parties tchadiennes et chinoises. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, Mohamed Hissène Hassan, récuse ces allégations.
Les bons fonctionnements de la raffinerie, c'est dans l'intérêt des Tchadiens et aussi dans l'intérêt des Chinois. Parce qu'ils sont des partenaires, ils détiennent le 60%. Ce qui veut dire que ça leur apporte aussi beaucoup de choses. Donc, je vous le confirme, il n'y a aucun problème avec les Chinois. Donc, cette situation va être résolue le plus rapidement possible.
Selon des sources proches de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, une institution placée sous la tutelle du ministère du pétrole, la production a certes repris, mais il faut 2 à 3 semaines pour que la situation soit renversée. Comme c'est une reprise d'essai, la quantité produite sera progressive, indique la même source. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et à Jean-Roger Bion. Eric Mandirakiza à Washington vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.